Tout un monde.
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Il court le monde en quête de pierres précieuses, témoin privilégié de cette fascination universelle qui l'a conduit lui-même sous toutes les latitudes à la recherche des rubis sang de pigeon et autres diamants roses. Plus récemment, au Pakistan pour les aigues-marines, au Sri Lanka pour les saphirs, à Madagascar pour les tourmalines. L'invité de Tout un monde est Patrick Voileau. Bonsoir Patrick Voileau.
Bonsoir.
On est content de vous saisir entre deux aventures parce que vous courez le monde, ce que vous racontez dans votre dernier ouvrage sur la piste des pierres précieuses qui vient de paraître aux éditions du Trésor, un éditeur qui était vraiment pour vous.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors c'est une passion ancienne, née chez vous dès l'enfance, qui est une passion au départ qui repose plus sur un désir de connaissance que sur une âpreté, un appât du gain. C'est un peu le petit savant qui a d'abord parlé en vous.
Oui, tout à fait. J'ai commencé très très jeune, comme tous les enfants. C'est à l'âge de 8 ans, on collectionne les papillons, les coquillages et les pierres. Et les pierres sont restées, parce que j'allais souvent en vacances avec mes parents en Auvergne, et je prenais mon marteau, mon sac à dos, et je torturais un peu mon père que j'emmenais dans les carrières, et qui portait, lui, les multitudes de roches et de pierres que je récoltais, qui n'étaient pas toujours très très intéressantes. Mais ça a commencé comme ça, et puis cette passion a continué, et s'est transformée vraiment en une passion. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi le côté humain. Parce que la pierre précieuse n'est pas une pierre précieuse sans l'homme. En réalité, c'est nous qui l'avons fait précieuse. Et en fin de compte, l'homme est présent à chaque étape de cette pierre.
Oui, c'est ce qu'on comprend en vous lisant, parce que vous accordez une attention appuyée à des pierres qui ne sont pas toutes d'un grand prix, qui peuvent parfois vous passionner en dehors de leur valeur marchande.
Absolument. La fascination que j'ai pour les pierres, c'est la matière, l'attirance de cette matière, le lieu et où on les trouve, mais aussi l'attirance de cette matière. Vous allez avoir un certain nombre de pierres devant vous, et d'ailleurs je pense que chaque individu a un peu cette réaction. On vous met une dizaine de pierres devant vous, il y en a une ou deux qui vont vous attirer particulièrement. Et c'est pas forcément la plus chère ni la plus rare. C'est souvent une attirance qui vient de l'au-delà, si vous voulez, hein.
Ouais. Alors, qui tient à quoi, finalement? À la limpidité de la pierre une fois qu'elle est taillée? Qui tient à la beauté de la couleur? Comment est-ce qu'on pourrait définir? Pourquoi aime-t-on tant ces objets qui brillent? Et surtout quand ce sont des pierres, alors qu'on peut facilement les reproduire?
C'est facilement reproduire.
Pas si facilement que ça.
Pas si facilement que ça. Mais c'est un mélange de choses, si vous voulez. C'est un mélange, parce que bien souvent, les gens, et vous verrez sur la couverture de mon ouvrage, il y a un cristal d'aigues-marines qui est absolument fascinant, qui a une forme tout à fait naturelle, qui n'a pas été taillée. Et souvent, les pierres dans la nature...
Oui, c'est une sorte de bâton...
Oui, avec des facettes dessus. Souvent, la matière, on trouve ces pierres, ces minéraux, puisque à l'origine, ce sont des minéraux qui vont devenir des pierres précieuses quand on va les tailler. Mais souvent, on les trouve déjà cristallisés dans la nature, avec une forme très particulière. Et c'est à la fois la forme, la couleur, parfois, qui est vive, sa pureté. Peut-être même, de temps en temps, ses inclusions. Même si elle a quelques défauts à l'intérieur, parfois, ces défauts
sont... Ça rajoute au charme?
Ben oui. Ouais. Vous regardez, par exemple, certaines pierres précieuses qui sont taillées, comme l'émeraude. On parle du jardin de l'émeraude à l'intérieur de l'émeraude. Ce sont les inclusions qu'il y a à l'intérieur. Les plus beaux saphirs du monde, qui viennent du Cachemire, où je suis allé d'ailleurs, j'ai fait 150 km à pied pour me rendre dans cette mine en traversant le haut Himalaya. Vous voyez, il faut être fou, hein, d'ailleurs. Quand je repense à ces choses-là, je me dis...
Vous allez nous raconter un petit peu, oui.
Voilà. Les plus beaux saphirs du monde ont un espèce de bleu velouté dû aux inclusions qu'il y a dedans. Et ils valent 10 fois plus cher que les saphirs birmans, qui sont très chers aussi.
Et qu'est-ce qu'il y a dans ces inclusions? Des insectes? Des végétaux? Qu'est-ce
que c'est? Il n'y a que du minéral, des liquides et des gaz, éventuellement.
Il y a parfois des petites gouttes d'eau, hein, à l'intérieur.
Alors,
ce sont
des liquides, c'est rarement de l'eau, sont des liquides de compositions diverses. Il faut savoir que vous prenez par exemple le diamant, les premiers diamants sont faits il y a 3 milliards d'années. Donc, à cette époque-là, si vous voulez, les roches et les minéraux sont formés, ils ont emprisonné un certain nombre d'autres minéraux.
Alors, vous êtes un savant, Patrick Voileau, vous êtes un scientifique, vous avez une formation de pharmacien, vous avez créé une grande collection qui est aujourd'hui visible à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry.
Tout à fait, oui.
Et en même temps, vous avez tardivement, sous l'impulsion de votre fils, engagé quand même une pratique commerciale.
Oui, qu'il terrorise un peu, parce qu'en fin de compte, quand on va... C'est pas la pratique commerciale qu'il terrorise. C'est-à-dire que, bon, mon fils a fait une école de commerce, il a souhaité vendre des pierres, des bijoux, donc je l'aide. Mais ce qui le terrorise, c'est quand on va acheter des pierres ensemble, les plus belles pierres... À l'autre bout du monde, bien sûr. Les plus belles pierres, je les garde pour moi. Alors il me dit à chaque fois, c'est pas possible. Ça le fait beaucoup rire. Parce que je suis un très mauvais marchand. C'est-à-dire que quand une pierre me plaît, je suis incapable de la revendre, je la garde pour ma collection.
Alors justement, pour un profane comme moi, on s'interroge sur la hiérarchie justement des pierres, puisque au sommet de l'échelle, il y a le diamant, et puis après, il y a les 3 ou 4 autres, c'est-à-dire rubis, émeraudes, saphirs. Pourquoi ces pierres-là? Parce que quand on lit ce que vous écrivez, et quand on regarde votre site, on découvre des pierres magnifiques qui sont extrêmement accessibles. Alors pourquoi ce sont celles-là qui sont tellement, tellement cotées?
Alors, si vous voulez, le diamant, c'est pour prendre celle qui est en réalité la plus cotée. Ceci dit, la plus rare serait plutôt le rubis. Hein, la plus rare sera le rubis et la plus chère. Ceci dit, il y a des exceptions dans le diamant qui sont des diamants de couleur, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a des diamants bleus, jaunes, verts, rouges. Le diamant rouge, par exemple, il en existe 40 au monde. Donc, il est bien évident que c'est la matière, à mon avis, la plus chère que l'on puisse trouver sur la planète. C'est-à-dire que 1 carat, c'est-à-dire 0,2 gramme, le carat étant dérivé du caroubier, la graine de caroubier qu'on utilisait pour peser les pierres, 0,2 gramme aujourd'hui, si on regarde les enchères qui se font, 1 carat de diamant rouge vaut 1,5 million d'euros. Et quand on a 2 carats, 3 carats, 4 carats, 5 carats, 6 carats, le prix est exponentiel. C'est-à-dire, on monte en prix au carat. Donc, ça en fait des pierres extrêmement chères parce qu'extrêmement rares. Le diamant mérite aussi, si vous voulez, ce placement dans la hiérarchie, parce que c'est la pierre la plus dure, c'est celle qui brille le plus, c'est la plus ancienne, c'est au niveau de sa formation, c'est celle qui se forme le plus profondément dans la Terre. C'est une pierre exceptionnelle, le diamant.
Parce que pour le profane, à vue d'œil, pas tellement facile de faire la différence.
Ah non, c'est vraiment un métier de professionnel. Moi, je décourage toujours mes amis ou les gens qui voyagent et qui ne connaissent pas les pierres d'en acheter. On leur montre la plupart du temps...
Ils vont se faire avoir à tous les coups.
À tous les coups. Même moi, quand je vais dans des endroits où on ne me connaît pas, et même parfois des endroits où on me connaît, il y en a toujours un qui va essayer de me donner ou de me vendre une pierre qui est... Bon, trafiqué, synthétique, etc., ou qui n'est pas ce qu'il annonce. Donc, si on connaît pas très bien, c'est très difficile d'acheter des pierres sans avoir vraiment étudié celle-ci.
J'aime la passion d'une vie. Nous parlons des pierres précieuses que Patrick Voileau est allé chercher et continue d'aller chercher aux quatre coins du monde. Patrick Voileau, vous racontez ses aventures dans votre dernier ouvrage sur la piste des pierres précieuses. Alors on vous découvre effectivement arpentant la planète et poussé par cette passion, prenant quand même des risques assez importants. On vous voit en train de marchander aussi, on voit que tout de même vous maîtrisez complètement, on va peut-être pouvoir en parler. On voit aussi des pierres qui restent mémorables dans votre histoire, y compris celles qui vous sont passées sous le nez. Alors il y a une certaine pierre de lune dont vous parlez avec émotion et qui malheureusement n'a pas fini dans votre poche.
Absolument.
Ça se passait où ça ?
En Birmanie. C'est ce que je dis maintenant à mes élèves ou les gens à qui j'apprends. Je leur dis, si une pierre vous plaît, ne la quittez pas des yeux, achetez-la si elle vous plaît.
Eh oui, parce ça que circule facilement.
Ça part très vite. Cette pierre de lune, je le raconte dans ce livre, je l'ai vue un soir. C'était une pierre de lune absolument grosse comme un œuf de pigeon. Elle était dorée, avec un chatoiement extraordinaire. Elle était avec d'autres pierres qui m'intéressaient aussi. Je les ai marchandées, comme on fait habituellement. C'est-à-dire que le marchandage, ça fait partie de la relation qu'on a avec ces gens-là. Parce que quand vous êtes en Asie ou en Amérique latine ou dans d'autres pays, il y a des méthodes de marchandage très différentes en fonction des endroits. Et il faut marchander. Parce que si vous marchandez pas, on ne vous respecte pas, on vous prend pour un gogo, etc. Donc je marchande, ça m'amuse beaucoup, eux aussi. Et c'est l'occasion de mieux connaître les gens. C'est souvent des marchandages très amusants, où on rigole, où on se dit un certain nombre de choses. Et cette pierre, je l'ai marchandée, je devais revenir le lendemain pour la voir. Et en fin de compte, le lendemain, la pierre avait disparu. Les autres étaient encore là, mais celle-ci n'était plus là.
Pourquoi ?
Peut-être parce que quelqu'un est passé après moi à proposer un prix plus intéressant.
Peut-être. Oui, parce que vous êtes en compétition avec sur le terrain avec d'autres
toujours,
négociants.
Toujours, bien sûr. Ouais. Toujours. Sur les pierres très intéressantes, il faut vraiment pas perdre de temps et bien bloquer les choses. Hein. Et j'ai en mémoire un certain nombre de pierres comme ça qui me sont passées sous le nez. Il n'y a pas très longtemps, il y a une autre pierre qui m'est encore passée sous le nez. C'était à distance, mais à quelques centaines d'euros ou dizaines d'euros même près.
Poup. Ah, ah, ah.
Le marchand, il vend à celui qui lui propose le plus cher.
Alors, parmi vos aventures, l'une d'entre elles vous a entraîné au Pakistan. J'ai l'impression que c'est une des plus dangereuses, parce qu'il y a un énorme engagement physique. Et là, vous alliez chercher des aigues marines dans la montagne de Chumar Bakar.
Oui.
Et là, sac au dos, galère. Hein,
c'est
6000 mètres d'altitude.
Oui, mais c'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Moi, je dis souvent, quand on me parle de ski, de pot de phoque et tout, pour monter, pour faire des belles descentes derrière, je dis toujours non, c'est trop fatigant, je ne fais pas ça. Par contre, si on me dit à 6000 mètres, il y a des aigues marines, j'y vais. Et c'est vrai que c'était un endroit fascinant. C'est un endroit dans le nord du Pakistan, dans le Karakoram. La mine est face à une des montagnes les plus hautes de cette région, qui est le Rakaposhi, qui fait 8000 mètres. C'est au-dessus d'un glacier. Les gens exploitent 6 mois par an. C'est
qui exploite ? Les gens du pays ? Alors, des gens venus d'ailleurs ?
Non, ouais. Non, ce sont les gens
villageois.
Du pays. Les villageois, c'est-à-dire que ça fait pas très longtemps qu'ils exploitent. Ils ont commencé dans les années 70-80. Et ce sont des chasseurs qui, dans la montagne, ont trouvé un morceau par terre. Ils pensaient que c'était de la glace. En réalité, c'était un cristal d'aigue marine. Et puis à la suite de ça, ils sont montés. D'abord quelques-uns, et puis de plus en plus nombreux pour exploiter ces cristaux d'aigues marines.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-haut ? Est-ce qu'il y a une ruée actuellement à la suite de ces découvertes, ou est-ce que ça reste local ? Parce qu'il faut accéder, vous décrivez votre parcours, c'est extrêmement dur.
C'est-à-dire que ça, il n'y a pas de ruée, parce que chaque montagne appartient à un village, et ils ne laissent pas les gens aller chercher sur leur terrain. Ou alors, s'il les laisse, c'est très réglementé, malgré le rudimentaire de la législation dans ces régions-là. Mais au début où je suis allé dans cette mine, il y avait quelques dizaines de mineurs. Quand j'y suis retourné 3 fois dans cette mine, en réalité. À la fin, il y avait plusieurs centaines de mineurs qui cherchaient. Hein.
Alors, parmi vos périples, il y en a certains qui se font vraiment dans des zones à risque, non pas physique cette fois, mais à cause des mafieux qui sont présents. Et c'est le cas de la Colombie. Votre quête des émeraudes, qui est déjà un petit peu plus ancienne, elle était vraiment sur un terrain très, très dangereux, dans un contexte humain très, très périlleux.
C'est évident, parce que si vous voulez, à partir du moment où vous avez des denrées extrêmement, de prix extrêmement élevés dans une région, ça draine énormément de gens qui sont à l'affût de trouver des trésors. Souvent, c'est pas dans les mines où c'est dangereux. Souvent, c'est aux alentours des mines. Vous avez des espèces d'aires de gens qui viennent, qui cherchent, qui essaient de trouver des émeraudes dans la rivière, dans les rebuts, dans les gravats. Ceci dit, depuis que j'ai écrit cette histoire, ça a été assez cliné, cette région-là. Mais ça reste une région quand même qui était extrêmement dangereuse et qui l'est encore. C'est une région qui était entourée par les FARC à l'époque, parce qu'ils voulaient prendre en possession des mines. Donc à chaque fois qu'on traversait en voiture la région qui s'appelle le Triangle Vert, qui est au-dessus de Bogota, on arrivait dans des endroits absolument impossibles. J'ai rencontré des gens incroyables d'ailleurs. J'ai rencontré l'archevêque de Chiquinquirá, qui était un homme qui vous regardait. On a l'impression de voir Clint Eastwood, vous savez, quand il était à Brillant Prêtre, je me rappelle plus du nom de ce film, mais il a négocié la paix entre les différents villages à l'époque, dans les années 80, justement, où je raconte cette histoire, où ils s'entretuaient. J'ai tourné un film après, dans cette région, et cet archevêque regardait la caméra droit, dans les yeux, si vous voulez, de la caméra, pratiquement. C'était un homme incroyable. Et il a négocié la paix de cette région.
France Culture, tout un monde. Marie-Hélène Fraissé.
Dans tout un monde, en quête des pierres précieuses, semblables à cette Indiana Jones dont on entend la musique. Patrick Voileau, on a bien compris d'après ce que vous dites, et vous développez beaucoup cet aspect-là dans votre dernier livre sur la piste des pierres précieuses, que une aussi grande valeur concentrée dans une aussi petite surface, un aussi petit volume, ça génère quand même des tensions humaines. Alors je voudrais qu'on aborde maintenant quelques-uns des aspects humains autour des pierres précieuses. Il y a des aspects géopolitiques, et il y a des aspects tragiques aussi. Ça génère des zones vraiment de non-droit à l'apparition des pierres précieuses. On a eu dans cette même émission, il y a de ça presque un an, un ancien chercheur de diamants en Angola. Il nous expliquait à quel point c'était terrible. Et d'ailleurs, dans votre propre livre, il y a des morts. Il y a des galeries qui s'effondrent, il y a des gens qui meurent sous vos yeux. Et puis il y a tout aussi les régimes qui s'attribuent les pierres précieuses. Alors vous parlez notamment de la Birmanie, c'est intéressant parce que la semaine dernière, dans Tout un monde, on évoquait la Birmanie. En Birmanie, les plus beaux rubis du monde, mais 90% sont détournés par les officiers, les colonels, l'armée birmane.
Alors, on peut même pas dire qu'ils sont détournés, c'est-à-dire qu'ils ont les mines. Si vous voulez, les généraux, les colonels, etc., ont des mines qu'ils exploitent eux-mêmes. Ils ont des mines en joint venture, c'est-à-dire en association avec des propriétaires privés de Mogok. Il faut savoir que Mogok est l'endroit où on trouve les plus beaux rubis du monde, qui est près de la frontière de la Chine, est un endroit extrêmement fermé, qui commence à s'ouvrir un peu au tourisme, mais avec des autorisations vraiment très spéciales. Et je suis pas sûr que ça soit une bonne solution de l'ouvrir au tourisme. Enfin bon, c'était un peu un paradis perdu, hein, cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est un endroit où les gens vivaient en dehors du monde, puisque même les Birmans pouvaient pas venir acheter des rubis. C'était les gens de Mogok qui pouvaient sortir pour aller les vendre. La plupart de la production devait aller et doit aller sur deux grandes ventes annuelles, qui sont les ventes de l'Emporium, qui se déroulent à Yangon. Mais 90%... C'est assez difficile de donner un chiffre, parce qu'il y a énormément de pierres qui partent sur des circuits complètement occultes.
Mais c'est facile de cacher une pierre quand on trouve une très belle pierre. Elle est grosse comme quoi ? Absolument. Un gros haricot ?
Ouais, je peux vous raconter une anecdote.
Ça se cache dans les oreilles et dans des endroits moins avouables.
Absolument. Il y a plein d'histoires comme ça. Mais les propriétaires de mines ne parlent pas de leur découverte. Je veux dire, j'ai une anecdote très rapide à vous raconter. Je tournais un film avec justement mon contact qui est médecin là-bas et qui connaît tout le monde parce qu'il soigne tous les mineurs gratuitement. Maintenant, il est devenu fou avec les pierres du jour où un mineur l'a payé avec une part de mine. Et j'étais avec lui et je vais voir les propriétaires que j'avais déjà vus parce que je suis allé de nombreuses fois à Mogok. J'y allais même à l'époque, on avait des visas de 7 jours. Et les propriétaires disent, je leur demande, vous trouvez des rubis en ce moment ? Non. Je monte tourner, et puis je descends chercher mon ami médecin. Et il remonte, il me dit, j'ai la couleur dans l'œil. Alors je lui dis, quelle couleur t'as dans l'œil? Il me dit, j'ai la couleur dans l'œil. Il me dit, ils m'ont montré un rubis de 10 carats, sang de pigeon, une pure merveille. Alors je lui dis, mais pourquoi ils me l'ont pas montré? Il me dit, parce qu'ils ont pas encore confiance suffisamment en toi. Parce que justement, ces pierres-là, partent vers la Chine, la Thaïlande, etc. Et les généraux et les colonels n'en voient pas la couleur. C'est le cas de le dire.
Alors justement, en Birmanie, quand même, mettons en garde ceux qui nous écoutent, qui seraient tentés d'aller faire le voyage en Birmanie, puisque maintenant, c'est un pays qui s'est ouvert, qui accueille beaucoup de touristes. Alors, 9 chances sur 10, quand on est un touriste, de se faire refiler un faux rubis.
Je leur conseille d'aller voir sur mon site, qui porte mon nom, le film que j'ai fait sur les rubis, qui se termine justement avec des touristes qui ont acheté à Yangon des pierres, qui étaient fausses, bien évidemment. Si vous voulez, bon, vous pouvez tomber sur une pierre vraie, mais c'est très rare. En réalité, on vous montre en priorité des pierres fausses. Si on voit que vous n'y connaissez rien, vous allez acheter que des choses qui n'ont absolument aucune valeur.
Alors aujourd'hui, à l'échelle planétaire, la pierre précieuse est devenue un très gros investissement.
Oui, parce que si vous voulez, avec les différents crashs boursiers, avec la crise économique... Bon, aujourd'hui,
plus que l'or, quoi.
Mais oui, parce que l'or est une valeur qui a monté, mais qui n'est pas transportable. Si vous voulez, vous avez un lingot d'or, qu'est-ce que vous en faites? Vous le mettez dans votre poche, vous faites un trou dans la poche, ou vous passez tous les portiques, ça fait bip bip, c'est un métal. Alors que aujourd'hui, vous regardez sur les salles des ventes chez Christie's, Sotheby's, toutes ces grandes maisons de vente qui vendent des grosses pierres, vous regardez, ils ont régulièrement des diamants de couleur. Regardez les prix qu'atteignent les diamants de couleur. C'est complètement hallucinant. Ça tient plusieurs dizaines de millions d'euros pour des pierres qui font quelques carats, c'est-à-dire 10-20 carats. 10-20 carats multiplié par 0,2 grammes, ça fait 20 grammes ou 2 grammes. C'est dérisoire. Si vous prenez un diamant rose, un diamant rouge ou un diamant vert, vous pouvez très facilement, en achetant ces pierres-là, avoir des millions d'euros et les passer, les emmener n'importe où.
Et les cotes ont augmenté beaucoup au cours des dernières années.
Dans les 10 dernières années, elles ont été multipliées par 5.
J'aime la passion de sa vie. Patrick Voileau est avec nous dans Tout un monde. Patrick Voileau, on a commencé à parler donc des aspects financiers autour des pierres précieuses. Je sais que c'est pas la première de vos préoccupations parce que vous êtes un vrai amoureux des pierres précieuses, une passion depuis l'enfance. Mais on aimerait, pour terminer cette émission, comprendre comment on circule aujourd'hui les pierres précieuses. On apprend dans votre récit, par exemple, qu'il y a un haut lieu d'échange des pierres précieuses qui est Tucson, en Arizona. Donc, il y a des des circulations comme ça de ces précieuses matières que nous, qui ne sommes pas des spécialistes, ignorons totalement. Alors pourquoi Tucson, par exemple? Vous dites que c'est le plus grand lieu d'échange de pierres précieuses, donc quelque part dans le désert d'Arizona, à la jointure du Mexique.
Oui, il y a un certain nombre de lieux qui sont des plaques tournantes pour les pierres précieuses qui arrivent. Bon, Tucson, c'est une fois par an, pendant une semaine ou deux, où les gens viennent du monde entier exposer leurs pierres, que ça soit taillées, brutes, etc., pour les vendre à d'autres personnes qui viennent du monde entier aussi.
Mais pourquoi là? Parce que c'est pas un endroit où il y a des pierres précieuses.
Parce que c'est au milieu du désert. Et que...
C'est discret?
C'est pas discret, au contraire, aux États-Unis, on cherche pas à être discret, mais seulement si quelqu'un veut les voler, il y a rien autour et il se fait attraper plus facilement. Je pense que c'est une des raisons
sécurité.
Voilà, ouais. Pour laquelle ça se passe dans cet endroit-là. Et c'est assez amusant parce que vous avez des ventes dans tous les hôtels, dans tous les malls, dans tous les centres d'exposition, c'est énorme. Mais vous avez des endroits fixes aussi dans le monde où vous trouvez des pierres. Par exemple, vous avez à Bangkok, il y a beaucoup de pierres de couleur, etc., qui viennent d'un peu partout, qui sont taillées, qui sont vendues. Vous avez des immeubles entiers où les gens vendent des pierres, etc. Vous avez, pour les diamants, vous avez Bombay, vous avez Tel Aviv, vous avez encore Anvers qui vend du diamant et des pierres. Donc vous avez un certain nombre d'endroits comme ça dans le monde où les pierres circulent. Vous avez des grandes ventes ponctuel aussi comme à Hong Kong, régulièrement. Il y a des ventes. Alors, pourquoi ces endroits-là et pourquoi en France on n'en a pas? Parce que, tout simplement, vous arrivez à Hong Kong avec une valise de pierre, une valise de billets, vous rentrez, vous faites votre business, vous repartez avec votre valise de pierre, votre valise de billets. En France, vous pouvez plus aller acheter un scooter avec de l'argent, tout est compliqué. Et vous voulez acheter un scooter, ils vous demandent de le payer cash, il faut un chèque de banque, un truc, machin, enfin... Business est complètement détruit en France à ce niveau-là. Donc c'est vrai que le business se déplace sur d'autres endroits comme l'Asie et puis l'Inde aussi.
Et ces endroits, vous les fréquentez ou vous préférez le terrain? Puisque dans votre livre, vous racontez surtout vos expériences de terrain plus que vos expériences de négociant.
Si vous voulez, les contacts et les, la manière de savoir ce qui se passe dans le monde... On peut pas avoir des observateurs partout et être informé. J'ai des observateurs dans beaucoup d'endroits qui me donnent des informations. Mais les plaques tournantes où on voit les nouvelles pierres arriver, de temps en temps, vous avez un petit bonhomme qui laboure son champ et qui va découvrir quelque chose. Alors, on n'est pas forcément informé, mais lui, il sait qu'il peut aller vendre à Hong Kong, il sait qu'il peut aller vendre à Tucson. Donc, on rencontre ces gens-là dans ces endroits-là et ça permet de voir un petit peu ce qui se passe partout dans le monde.
Quel est le lieu où vous avez vécu votre plus belle expérience? Là, vous parlez dans votre livre de Madagascar, de la Tanzanie, du Sri Lanka. Au jour d'aujourd'hui...
Le pays qui m'a le plus touché, c'est sûrement la Birmanie.
Ah oui.
Parce que les gens sont adorables. Franchement, c'est un pays qui a été énormément malmené par les médias aussi, si vous voulez. Mais les gens sont adorables et moi j'ai beaucoup essayé, beaucoup, j'ai fait des films, j'ai écrit beaucoup de choses sur la Birmanie parce qu'il faut que les touristes aillent voir les gens, parce que c'est le seul moyen d'ouvrir un pays.
Mais sans acheter les rubis à n'importe qui.
Ah, ça.
Voilà, on termine avec Sherif Mbo. Alors, tout savoir sur les pierres précieuses, c'est dans les ouvrages et les films de Patrick Voileau sur son site. Et puis, ce dernier très joli récit passionnant, palpitant, plein d'aventures sur la piste des pierres précieuses aux éditions du Trésor. Merci Patrick Voileau.
Merci.
Tout un monde, le magazine des cultures, à la prise de son Philippe Palares, à la réalisation Vanessa Nadjar. Tout un monde, chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castio, qui vous soigne la page de Tout un monde sur le site France Culture. Et c'est une émission qui vous est proposée par Marie-Hélène Fraissé. Sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.
Sabe, minha namorada.